Nulla dies in linea. Pas de jour sans une seule ligne. Ni aucun jour sans un podcast. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes en direct en public depuis la Tortue. La Tortue, ça se trouve à Genève, 154 route de Malagnou. Ça côtoie Xenop, donc ce sont des maisons collectives dans lesquelles actuellement il y a en cours l'anniversaire de Moins. Bon anniversaire Moins, Moins, c'est le journal roman d'écologie politique hein, qui est le fruit du travail des décroissants suisses. Et nous avons en face de nous Alizée et Charles, bienvenue à vous.
Merci.
Merci de consacrer un petit moment parce que vous, du coup, vous êtes de Lausanne. Et vous êtes là parce que nous allons parler un petit moment antispécisme. On trouvait que ça allait bien avec le thème de la journée, finalement. Et d'autant plus qu'il y a une actualité, puisque vous vous en revenez de la manifestation qui a eu lieu samedi à Lausanne contre l'ouverture d'Aquatis. Mais qu'est-ce donc que ce nom bizarre qui pourrait sonner autant pour certains comme quelque chose d'accueillant et qui peut aussi sonner comme une horreur, une géole, un lieu de perdition. Qui veut commencer par nous décrire ce qu'est Aquatis ? Alizée.
Oui, alors Aquatis, c'est un projet qui était un rêve hein, de M. Pitaval depuis des années et des années. Et du coup, ça s'est concrétisé grâce aux subventions de plusieurs financements, par exemple M. Bernard Russi, et qui se concrétisent en un aquarium géant à Vennes, au-dessus de Lausanne, couplé avec un complexe d'hôtels et de restauration et de massage et de bains, etc. Et donc c'est littéralement un aquarium, une mise en scène aussi, parce qu'il y a beaucoup de show, quelque chose de catchy pour attirer l'œil avec toute une mise en scène de parc d'attractions. C'est donc à peu près 10 000 poissons qui sont les stars des aquariums d'Aquatis, une centaine de reptiles et des amphibiens, parce que ça a aussi été rapproché avec le vivarium, l'ancien vivarium de Lausanne. Et donc Aquatis, ben, ça fait ce nom, vous parliez du nom, ben, ça fait mention en fait de cette aqua, c'est l'eau. Et ils ont trouvé ben, voilà, ce jeu de langage avec le T pour la terre, le I pour... Enfin, dans cet esprit un peu attirant. Et leur projet aussi, c'était beaucoup centré, la manière dont ils communiquent sur cet aquarium, c'est la pédagogie et la conservation des espèces. Je ne sais pas si on discutera plus tard de ce sujet. Voilà.
Ça se peut. Alors Charles, vous êtes tous les deux membres de PEA pour l'égalité animale et c'est à ce titre que vous êtes rendu hier devant Aquatis pour informer, contre-informer les populations, j'imagine. Alors peut-être dis-nous quelques mots de cette association, ce groupement PEA pour l'égalité animale.
Oui, alors donc PEA, c'est donc pour l'égalité animale, c'est une association basée en Suisse romande, donc qui a vu le jour suite à un rapprochement entre deux autres associations de Genève et Lausanne et qui depuis s'est développée dans quasiment tous les cantons romands, c'est-à-dire qu'il y a une section donc genevoise, vaudoise, valaisanne, il y a aussi à Neuchâtel dans le Jura et depuis très peu à Berne, donc c'est vraiment un mouvement qui prend de l'ampleur. Et donc c'est une association donc pour l'égalité animale donc, dont le principal but est d'informer la population sur la notion de spécisme et de politiser justement tout ce qui touche à la question animale, c'est-à-dire mettre la question du droit des animaux, de notre rapport à eux dans l'espace public et en faire vraiment un débat de société pour évoluer vers une société plus égalitaire, d'où le nom de l'association. D'accord. Je ne sais pas si Alizée veut peut-être compléter.
Alizée, est-ce que tu souhaites compléter ? Non, c'était bien comme ça.
J'ai juste oublié de mentionner le canton de Fribourg et je ne veux pas faire de la peine aux Fribourgeois.
Non, mais bien sûr.
On va tu fais un super travail.
Très bien. On va d'ores et déjà donner l'adresse du site internet de l'association pour les personnes qui souhaiteraient s'y rendre ou éventuellement vous contacter pour une raison ou pour l'autre.
www.asso-pea.ch.
Très bien.
Alors, et on a aussi donc une page Facebook, si jamais vous voulez nous suivre et nous rejoindre, donc pas hésiter à nous joindre via ce biais. Il y a aussi Instagram, donc on est assez présents, et Twitter depuis peu, je crois. Donc
vous êtes partout.
Ouais,
mais c'est très bien. C'est très bien, d'autant plus que c'est un argument qui est sous-représenté en général, l'argument de l'antispécisme. Alors, veut-on préciser, vous avez déjà ébauché la réponse, mais veut-on préciser que signifie l'antispécisme, le spécisme et a fortiori l'antispécisme ?
Oui, donc l'antispécisme, c'est le fait de refuser que les critères un des critères moraux fondamentaux pour fonder une éthique soit le critère d'appartenance à une espèce biologique. C'est-à-dire qu'on considère, depuis des études éthologiques, depuis des réflexions philosophiques, qu'il n'y a pas que les êtres humains qui ont des intérêts à vivre, pour qui leur vie leur importe. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas une ligne droite, infranchissable, en fait, entre l'espèce Homo sapiens sapiens et les autres espèces, que ce soit Canis lupus, que ce soit les chats, enfin voilà, il n'y a pas une frontière qui fait qu'ils ont des capacités. Ils n'ont pas en fait nos capacités. Il y a des choses en fait qui se mélangent. Il n'y a pas une frontière qui soit en fait pertinente pour justifier cette discrimination. Et cette discrimination, donc, qui est le spécisme, permet la domination humaine en fait sur ces animaux non humains. Et donc, résulte dans ce qu'on voit aujourd'hui, qui est leur exploitation pour tout ce qu'on veut, l'alimentation, les vêtements, les aquariums comme Aquatis, etc., etc. Ça n'en finit pas. Et donc l'antispécisme, c'est le refus de cette idéologie qui est totalement arbitraire, incohérente, qui se base sur des critères biologiques qui sont au même titre qu'un temps on discriminait les personnes de couleur, enfin les personnes racisées, parce que biologiquement on attribuait ce critère de la couleur de peau comme étant un critère moral qui était légitime.
Tout à fait, qui permettait, comme tu l'as dit, de légitimer toute une série d'attitudes, plus que ça même, toute une de manière systémique, justement, de mettre en place une organisation différenciée selon justement ces populations-là. Concernant les animaux, quand on parle d'antispécisme, est-ce qu'on inclut l'ensemble du vivant en termes d'animaux? Est-ce qu'il y a là aussi quand même à un moment donné une frontière ou pas? Je ne sais pas, ça pourrait être les mammifères, ça pourrait être les pluricellulaires, ou je ne sais pas.
Alors il y a effectivement une frontière, en fait, on ne sait pas, ça ne concerne pas tout le vivant, ça concerne toute la sentience. Ça concerne donc jusqu'à maintenant que des animaux, parce qu'on n'a pas pu trouver de la sentience chez d'autres êtres vivants. Et la sentience, c'est quelque chose qui est encore en cours d'éveil. C'est quelque chose qu'on apprend tous les jours, que les philosophes, les éthologues, enfin surtout les éthologues, découvrent chez des animaux qu'on ne soupçonnait pas avant. Il y a un temps, les poissons, on ne les pensait pas sentients. Voilà. Et on découvre depuis une quinzaine d'années qu'ils sont sentients, au même titre que les chiens, les chats, les vaches, les cochons, les humains. Donc, voilà.
Et alors justement, cette sentience, est-ce qu'on sait déterminer à quel moment est-ce qu'elle surgit? Pourquoi elle surgit? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, un système nerveux? Est-ce que scientifiquement, on la détermine? Ou est-ce que c'est encore de l'ordre du travail vraiment scientifique, certes, mais également éthique, etc., philosophique?
Tout ce qui est déjà biologiquement, on peut constater que la présence d'un système nerveux est très souvent la garantie de la sentience, c'est-à-dire la capacité de ressentir de la douleur et par extension d'autres émotions telles que le stress, la joie et le plaisir. Ensuite, il y a certaines espèces animales qui en sont dépourvues. Par exemple, on peut penser aux éponges qui n'ont pas de système nerveux et donc de ce fait ne sont pas considérées comme sentientes. Après, la majorité de ces découvertes sont faites encore via des expériences ou des recherches éthologiques, c'est-à-dire qu'on fait par exemple des tests en mettant deux animaux dans un milieu agréable et un milieu par exemple désagréable. Par exemple, pour les poissons, on va créer un aquarium avec de l'eau et de l'autre avec une solution qui est peut-être irritante, et en fait on va constater que c'est la seule différence entre ces deux aquariums et que tous les poissons vont systématiquement éviter cet endroit, c'est-à-dire éviter la souffrance et rechercher le plaisir. C'est deux traits qui sont vraiment caractéristiques de cette sentience.
Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, et je me souviens que vous aviez à PEA, il y a de cela peut-être 6 mois, je dis ça mais j'en suis pas sûr, justement provoquer une campagne sur le fait que les animaux tels que les poissons ressentent de la douleur. Parce que c'est vrai que c'est un animal, le pauvre, qui ne produit pas de bruit, pas de cri, et que j'imagine qu'il est donc un petit peu laissé pour compte et que les gens peut-être s'imaginent que cette famille-là ne ressent pas la douleur, ce qui n'est pas le cas.
Oui, exactement. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par PEA Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais comme vous le dites exactement, les poissons sont beaucoup plus évolués que ce qu'on croit. On a souvent tendance à croire que les poissons, c'est un peu l'origine des autres êtres vivants, qu'on descend tous du poisson. Alors que l'évolution ne se passe pas comme ça. Les poissons d'aujourd'hui, ils ont évolué comme les autres animaux. Enfin, presque, ça dépend des espèces, mais la plupart. Et du coup, donc, au-delà de leur capacité de souffrir, etc., comme vous l'avez dit, on n'a pas de compassion pour eux. Ils ne nous ressemblent pas, ils n'ont pas d'expression faciale. Leurs voix sont inaudibles pour l'oreille humaine, comme vous l'avez dit, etc., etc. Ils sont pas très, on ne comprend pas très bien leur milieu, tout ça. Et du coup, on a fait beaucoup de travail avec Sébastien Moreau, qui est donc un facilitateur, un vulgarisateur de sujets d'éthologie. On a donc créé des pages d'éthologie pour parler des poissons. On a fait donc de la distribution, de la diffusion d'informations. Il y a aussi un blog qui s'appelle Les paupières des poissons, qui est fait par Sébastien Moreau et Fanny Vaucher, avec tout un contexte humoristique très mignon et qui est fascinant, en fait. Et on a aussi lancé la Journée mondiale pour la fin de la pêche, qui était en mars à la Place des Nations à Genève. Et du coup, c'est donc une campagne pour éveiller un peu. Ça a été une coalition, c'est une campagne mondiale, ça a été une coalition d'une quarantaine d'associations, peut-être même plus maintenant, qui veut faire émerger cette question, parce que ces poissons, on ne se rend pas compte, mais la pêche, c'est un chiffre incalculable. Si on considère qu'il y a 66 milliards d'animaux terrestres, qui déjà c'est un chiffre astronomique, qui trépassent, qui souffrent de leur exploitation pour l'alimentation humaine, c'est 1000 milliards au minimum de poissons qui sont pêchés. Oui. Donc ils sont complètement invisibilisés.
Complètement, et c'est innombrable. Là, on est sur des chiffres vraiment incroyables. Effectivement, il y a ce problème de représentation. Comment est-ce que vous observez ça et comment vous battez contre ça? Puis ensuite, on reviendra effectivement au récit de cette manifestation qui a eu lieu samedi. Mais même sans parler des représentations qui sont tout le temps un petit peu compliquées, comme on le sait, au travers des cultures, des âges, des zones géographiques, etc. Mais si on prend vraiment notre microcosme à nous et le regard que l'on porte sur le monde immergé, disons, clairement, entre un dauphin, auquel a priori on ne toucherait pas, et une pieuvre, dont on sait l'acuité également et l'intelligence de la pieuvre, un animal, on serait sensible plus à un animal qu'à un autre. Alors ça, j'imagine que pour vous, c'est un des sujets, un des champs opérationnels pour décoder tout ça et de dire ça aux gens. Alors comment est-ce que vous faites ça?
Tout à fait comme c'est très bien dit, on a beaucoup plus de compassion et d'attirance vers un dauphin que vers une sardine, par exemple. Alors qu'en fait, les deux sont des individus qui peuvent souffrir, capables de sentience. Ensuite, cette raison, je pense que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a souvent, par exemple, vu des films avec des dauphins, on a souvent cette représentation un peu majestueuse de cet animal, tandis qu'une sardine, ça a souvent été juste un mot écrit sur une boîte de conserve. Et c'est beaucoup moins attirant. En tout cas, on aura beaucoup plus de sympathie et de compassion pour un chien que pour un cochon. Alors qu'on sait qu'intellectuellement, c'est le cochon a même des capacités cognitives qui sont supérieures à celles du chien. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire avec la culture et aussi peut-être avec un conditionnement qui nous pousse à justement mettre des animaux dans certaines catégories, c'est-à-dire animaux de compagnie, animaux sauvages, un peu qu'il faudrait admirer et protéger, et animaux de consommation qu'on pourrait juste exploiter et manger, ou alors tout simplement ignorer.
Oui.
Et du coup, nous, en fait, on revient toujours à la sentience. C'est peu importe, parce que malheureusement, on se heurte, comme disait Charles, donc cette compassion, cette culture, mais aussi à notre méconnaissance scientifique. Comme je disais, c'est depuis très peu qu'on arrive technologiquement et au niveau de notre compréhension du monde à s'intéresser aux poissons, à comprendre leur monde. Et du coup, on en revient toujours à la sentience, parce que même si un individu n'est pas doté de toutes les capacités intelligentes qu'on pourrait souhaiter, il y a ce sens de la sentience qui fait que sa vie intrinsèquement compte. Donc on revient toujours là-dessus.
Absolument. Une question encore du détracteur qui serait la suivante, et je souhaiterais voir ce que vous répondriez à cela. J'entends bien que le divertissement, on ne peut pas, par intérêt, enfin par l'envie du divertissement, de coincer des animaux, de les mettre dans des situations quelles qu'elles soient, etc. Il y a cette idée aussi de prélèvement alimentaire, etc. Enfin, il y a une sorte de toute puissance qui s'installe, je comprends ça. Après, moi, je me dis peut-être qu'effectivement, il y a la partie pédagogie. Alors, c'est important que les gens puissent savoir comment fonctionne le corps, l'intérieur d'un animal, etc., etc. Alors, peut-être que ça justifierait des exceptions ou pas. Et puis, la troisième étape, c'est les médicaments. Si l'homme dans sa toute-puissance, l'humain, devrais-je dire plutôt, dans sa toute-puissance, eh bien, souhaite, quoi qu'il en soit, survivre. Ça peut aller loin, ça peut être du simple soin de base, disons, jusqu'au transhumanisme, qui sait. Est-ce que là, alors du coup, il y aurait, à vos yeux, des exceptions à faire? Ou que dalle?
Alors, concernant la pédagogie, donc il y a deux sujets, hein, la pédagogie et l'expérimentation animale à des fins médicales. Donc je commence par la pédagogie. Ce que les zoos, ce qu'Aquatis en fait enseignent comme pédagogie, bien sûr que c'est bien de voir les animaux en vrai, mais finalement derrière ces barreaux, derrière ces cages, derrière ces vitres, ça entretient surtout dans l'esprit des jeunes que ces animaux sont là pour nous, qu'en fait on en fait ce qu'on veut, qu'ils sont là à notre disposition, qu'ils n'ont pas d'intérêt, qu'on peut les prélever ou les élever pour, à nos fins, et qu'ils n'ont pas l'intérêt d'être libres, qu'ils n'ont pas leur propre, que leur existence en fait est à eux. Aujourd'hui, toujours par rapport à cette pédagogie, on a fait toutes ces choses par le passé. Donc ces dissections, même à vif, un temps, hein, sur des animaux ou des humains, même si c'était très... Bon, bref, peu importe. Et des zoos, etc., etc. Et aujourd'hui, donc, on a cet héritage. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis...
À New York. Donc à New York, ils ont aussi ouvert un aquarium, mais c'est un style différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux. C'est-à-dire que c'est un aquarium qui utilise la technologie actuelle, c'est-à-dire la réalité virtuelle, et qui permet justement aux visiteurs de s'immerger, même de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus
complexe. Oui, parce que dans son état naturel, oui. Là est la réalité, plutôt oui. que... Génial.
Donc c'est à la fois un mélange d'images genre complètement réelles et de reproduction de comportements de poissons via des modèles en 3D, des cinéastes et des personnes vraiment douées dans l'animation qui permettent d'avoir vraiment une compréhension beaucoup plus réelle de la vie d'un poisson. C'est-à-dire que quand on va dans un aquarium, on va le voir un peu tourner en rond... un peu de manière répétitive, tandis que si vous regardez un poisson à l'état, comme on dit, naturel ouais, dans son milieu duquel il provient, mm-hmm. on va voir qu'il y a des interactions beaucoup plus complexes, il se déplace sur beaucoup plus de distance, il y a beaucoup de phénomènes qui sont complètement occultés lorsqu'on les met derrière une vitre, en fait.
Tout à fait.
Petit bonus avec l'aquarium en réalité virtuelle, c'est qu'on se trouve dans l'eau, à la hauteur des poissons, et ils sont plus... sujet de notre observation, on est avec eux, c'est donc pour moi, enfin, c'est en plus intéressant.
Donc on n'a vraiment plus aucune excuse, pourrait-on dire.
Je pense plus, ouais. Et pour revenir du coup sur l'expérimentation animale,
oui.
Alors effectivement, un temps, ça a été utile pour comprendre nos propres processus, même si éthiquement c'est toujours discutable. Hein, mais aujourd'hui, on se rend compte, la science se rend compte, et beaucoup de médecins essayent de lutter dans les milieux médicaux pour dire que l'expérimentation animale est une pratique obsolète qui ne donne pas des résultats concluants. On sait que plein de molécules qu'on a testées sur les animaux, aucun animal n'a démontré les symptômes qu'on attendait chez les humains. Et si on s'était arrêté à nos conclusions, à nos observations sur l'expérimentation animale, on n'aurait pas découvert l'aspirine, parce que ça tue la plupart des animaux de laboratoire. Du coup, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de technologies, donc de nano-organes, de programmes par ordinateur, d'organismes in vitro, etc., etc. Enfin, je ne connais pas toute la liste, mais la LSCV en parlait très, très bien sur leur site et sur leurs réseaux sociaux, etc., et leur stand. Du coup, il n'y a plus non plus d'excuses au niveau de l'expérimentation animale.
Ligue contre la vivisection.
Oui, la LSCV, la Ligue suisse contre la vivisection.
Dont le site, si tu connais l'adresse par cœur, sinon facilement LSCV. Les gens...
LSCV.ch, quelque chose comme
voilà.
ça.
Enfin, moteur de recherche facile. Ok, c'est extrêmement intéressant de bien préciser tout ça, parce que c'est effectivement des fois des idées reçues qui ont la vie dure. Alors voilà, donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, par contre, j'imagine qu'en face de vous, il y a des ennemis, j'ai envie de dire des lobbies. Alors j'imagine que les différents lobbies alimentaires, vestimentaires sont parmi ceux qui sont le plus présents, prégnants, puissants. Est-ce le cas? Et si c'est le cas, comment est-ce que, depuis le point de vue de PEA, on se bat contre ça?
Alors oui, les lobbies sont très présents, surtout dans le domaine alimentaire, étant donné que c'est vraiment là où l'exploitation animale a lieu au quotidien, c'est-à-dire 3 fois par jour. C'est-à-dire que les gens ne vont pas, heureusement, dans des aquariums 3 fois par jour, contrairement à un supermarché où ils vont acheter des produits. Et pour ce qui est de la question suisse, on voit qu'il y a principalement deux lobbies vraiment qui sont très, très présents. C'est donc Proviant, donc qui fait la promotion de la consommation de chair animale, et Swiss Milk, qui, pour sa part, promeut et défend les intérêts, je cite donc ce qu'on trouve sur leur page officielle, promeut et défend les intérêts des producteurs de lait. Donc c'est vrai que c'est deux gros poids, on va dire qu'ils ont des moyens financiers et je pense de communication beaucoup plus développés que PEA, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement par exemple des pleines pages dans le 20 minutes qui critiquent et dénoncent un peu les laits végétaux, bien qui font la promotion de la consommation de lait sur des arguments, on va dire, très douteux. Et face à ça, PEA est un peu...
Démuni.
C'est-à-dire quoi ? C'est que face à cette lame de fond d'une puissance hallucinante, eh bien, c'est ça, c'est PEA. J'imagine que l'ensemble des individus se sentent, comme vous le dites, démunis parce qu'on a en face de nous des gens qui...
C'est leur métier.
Donc c'est le métier.
C'est leur...
Et donc, voilà, il y a des intérêts énormes, j'imagine, dans cette économie-là, je suppose. Du point de vue vestimentaire, je suppose que c'est un petit peu la même chose. Ou alors, on sent quand même qu'il y a un effort qui est fait par des marques qu'on ne va pas citer. Mais est-ce que là, vous sentez qu'il y a un petit changement et on reviendra à l'alimentation après ?
J'ai l'impression qu'il y a plus d'efforts du point de vue vestimentaire, même si on voit, par exemple, depuis quelques années, le retour des capuches en fourrure avec notamment Canada Goose. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres... pays et d'autres marques qui se remettent vraiment en question là-dessus et qui se tournent vers des alternatives végétales ou en tout cas qui nuisent pas aux animaux. Je pense que la transition est plus facile au niveau vestimentaire parce qu'il y a une attache qui est beaucoup moins émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est moins attaché à une veste en cuir qu'à un morceau de viande.
Ce que tu veux dire, c'est qu'on fait pas directement le lien entre la veste en cuir et l'animal.
Non, on fait le lien, c'est-à-dire que, enfin, on sait, mais dans le sens que si on a une alternative qui donne à peu près la même chose, on va dire pourquoi pas, tandis que ce qui est alimentaire, il y a vraiment cet attachement. Enfin, la nourriture, c'est quelque chose de central dans la vie humaine depuis le début. C'est vraiment là que les rituels se forment. Il y a vraiment beaucoup d'attaches et de souvenirs liés à ça. Donc, c'est un milieu où je pense que le changement a lieu de manière beaucoup plus difficile. Beaucoup moins.
Et du coup, parce que tu demandais qu'est-ce que PEA peut faire. Alors, pour l'instant, s'attaquer au grand lobby, on n'a pas les ressources, on n'arrive pas. Bien sûr, au niveau législatif, il y a des moyens de faire pression avec des pétitions, mais on se rend compte que c'est toujours très limité. Comme on dit, ce sont des géants qui ont de l'argent, qui ont un pouvoir, des réseaux, enfin, c'est très difficile. Il y a des initiatives qui peuvent être lancées, qui indirectement, on peut un peu les contrer, mais pour l'instant, c'est très difficile parce que dans le lobbying, on n'a pas de ressources, on n'a pas de moyens encore de s'insérer. Et surtout qu'en Suisse, on n'a pas les entreprises, on n'a pas le background commercial qu'il y a aux États-Unis ou en Allemagne ou dans d'autres pays où là, il y a du lobbying. On a Swiss Veg en Suisse qui essaye un certain travail, mais c'est quand même limité. Alors qu'aux États-Unis, il y a déjà des industries, on va dire, en tout cas véganistes ou qui du coup participent à un monde antispéciste, mais on n'a pas ça en Suisse.
Obligé du coup de préciser le mot véganisme, véganisme en quelques mots, puisqu'on l'a cité.
Consommer végan, en fait, c'est purement par rapport à son mode de consommation, c'est refuser de cautionner, d'acheter en fait l'exploitation animale ou la cruauté envers les animaux, donc par des objets de consommation.
Donc, quel qu'il soit, donc pas que alimentaire, mais effectivement vestimentaire, etc., etc., ainsi que des produits issus de.
Exactement. Mmh.
Très bien. Où est ma question suivante ? L'antispécisme, que contient-il ? Je veux dire, pour une personne qui découvre, qui cherche à découvrir ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire être antispéciste au quotidien ? Quelles sont les contraintes, entre guillemets, ou en tout cas, quelles sont les options et les attitudes que l'on adopte lorsque l'on adhère ?
La première contrainte d'être antispéciste, c'est de voir le spécisme partout. C'est-à-dire que d'être conscient d'une idéologie meurtrière à chaque pas, à chaque regard qu'on met en ville, sur chaque publicité, à chaque fois qu'on entre dans un magasin, à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler ou qu'on mange avec quelqu'un. Donc ça, c'est une contrainte d'être antispéciste, c'est cette pression, cette souffrance de voir cette idéologie, cette souffrance partout. Après, moi, je ne vois pas tellement d'autres contraintes, si ce n'est ce devoir peut-être qu'on se sent de militer, de donner sa voix pour les animaux, de se mettre sur l'espace public et de faire quelque chose pour eux. Et après, effectivement, par cohérence, moi, je ne vois pas ça comme une contrainte. Ça me semble être un minimum moral de consommer vegan, comme on l'a dit juste avant.
Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez rationnel.
Ah, tout à fait.
Je tiens à le préciser parce que voilà, cette interview sera écoutée par des personnes certes amicales et bienveillantes, mais peut-être aussi par des personnes qui ne le sont pas. Et donc c'est bien de dire que ça n'est pas là du tout un esprit je ne sais pas quoi qui serait un petit peu, comment dire, un peu illuminé, qui se jetterait là-dedans. Mais non, c'est une analyse rationnelle justement du constat que l'on fait de cette toute-puissance que l'on refuse et puis surtout de cette souffrance que ça procure et le refus de cette souffrance-là. Je voulais en revenir en juste une phrase et puis après on va passer effectivement à la manif. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de questions, c'est normal, mais on va essayer d'aller assez vite quand même. Mais est-ce que vous constatez pas également, quand on pour en revenir à l'alimentaire, le vestimentaire et l'analyse que l'on faisait tout à l'heure en disant que le vestimentaire, on s'en exemptait plus facilement, a priori. Est-ce que c'est pas également parce que moi il me semble qu'il y a des collusions à l'alimentaire, c'est-à-dire que le lait est bon pour la santé. La viande, il y a, je ne sais pas, du fer. Enfin, je ne sais pas exactement ce que l'on pourrait dire à propos de la viande, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que, dans une forme de collusion et de lobbyisme et d'intérêt financier gigantesque, parce que le marché de la viande doit être une chose incroyable, et du fromage, du lait, etc. aussi, est-ce que selon vous, puisque vous êtes des spécialistes, enfin, dans le sens où vous êtes, oui, mais depuis PEA, vous, voilà, vous avez travaillé le truc, y a-t-il des collusions santé-aliments qui font qu'on verrouille, que, parce que la remarque, tu te passes de viande mais tu vas tomber malade, et a fortiori t'es vegan, tu vas tomber malade, on l'a entendu. Alors je sais qu'au sein de certains hôpitaux c'est dépassé, mais est-ce que c'est le cas partout?
Bah alors non, pas du tout en fait. Ces remarques, où est-ce que tu trouves ton calcium si tu bois pas de lait, où est-ce que tu trouve tes protéines, ou alors même tout simplement qu'est-ce que tu manges, ça montre bien que en fait je pense que c'est vraiment un truc d'éducation, c'est-à-dire qu'on a toujours baigné là-dedans en entendant régulièrement il faut boire du lait pour avoir des os solides, et puis en fait ça s'est un peu ancré et banalisé, et en fait c'est quelque chose qui a jamais, enfin qu'on remet rarement en question, et en fait une fois qu'on s'intéresse vraiment à ça, on se rend compte que c'est des arguments qui certes le lait contient du calcium et certes la viande contient des protéines, mais c'est pas du tout les seules sources en fait, et on voit qu'il y a en faisant des recherches, en discutant avec des nutritionnistes et ce genre de choses, qu'il y a tout à fait, enfin il y a aucun problème à avoir une alimentation 100% végétale. Donc il y a ce travail de désinformation, ou de en tout cas éviter de trop dire que c'est possible de s'en passer, qui est fait notamment par les lobbies. On voit notamment Swiss Milk qui dit le lait contient plein de nutriments, ce qui est vrai, mais ils disent nous vous conseillons de consommer 3 produits laitiers par jour, sans dire que ça serait possible de ne pas en manger et de ne pas mourir.
Il y a également, on va s'arrêter là pour ce sujet-là, on en reparlera certainement une autre fois, mais c'est vrai que une des dernières campagnes des lobbies laitiers était impressionnante, parce qu'il y avait une sorte d'anthropomorphisme où on voyait des petits veaux qui étaient tractés par des humains, le meilleur ami de l'homme, de l'humain étant implicitement ce veau qui... Enfin, des images qui sont pour le moins erronées, mais qui sont vraiment... C'est frelaté même, je veux dire, c'est un mensonge. Enfin, je veux dire, peut-être voulez-vous en quelques mots rappeler comment est-ce qu'on produit du lait, parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel pour certaines personnes.
Oui, alors la production laitière, en fait, c'est quelque chose qui est étonnamment, et même en Suisse, c'est quelque chose de très méconnu. C'est-à-dire que la plupart des gens, je pense, se sont tout simplement jamais posé la question, c'est comment une vache produit du lait. En fait. Donc, quand on discute avec des gens, la plupart disent qu'une vache produit du lait tout le temps, en permanence.
C'est un robinet.
En transformant de l'herbe en lait. Donc, ouais. Ça serait une espèce vraiment... exceptionnelle sur la planète. Mais en fait, comme tous les mammifères, en fait, une vache produit du lait que lorsqu'elle a eu un petit. En fait. Donc pour ce faire, il y a des inséminations artificielles, donc qui sont faites de manière régulière pour que la vache soit enceinte. Ensuite, elle accouche et là, il y a le souci de qui va boire le lait. En fait. C'est-à-dire qu'on a d'une part le veau, donc à qui ce lait est, biologiquement destiné. Ouais. Et de l'autre côté, on a donc Elsa, Amy et consorts qui veulent ce lait pour le vendre et pour fabriquer des fromages, des yaourts et ce genre de choses. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du veau? Et c'est là que je trouve ça vraiment tragique et même presque choquant en voyant ces pubs, c'est qu'on met le veau sur ces pubs comme étant un animal sympathique qu'on apprécie, alors qu'en fait, dans l'industrie, il sera tout simplement séparé de sa mère, puis tué à un âge de 3-4
voilà.
mois.
C'est une.
Donc, c'est vraiment. On dit toujours que l'industrie laitière, ou même que ce soit l'industrie des œufs, provoque pas vraiment de victimes, donc il n'y aurait pas vraiment de problème à consommer ces produits, alors qu'en fait, il y a dans les deux, donc principal, enfin le lait et les œufs, mais les œufs, je pense qu'on ne va pas vraiment détailler, il y a des victimes systématiques et ça reste toujours des mécanismes de domination où on prive les animaux de liberté, on les considère vraiment comme des ressources des distributeurs. Quoi.
Mmh, tout à fait. Effectivement, on n'ira pas plus loin aujourd'hui parce que ça nous prendrait des heures, mais certes, ce serait bien qu'on continue là-dedans, ce sera certainement le sujet de d'autres interviews, d'autres entretiens. Revenons-en encore, 2-3 questions concernant PEA, et puis ensuite nous parlerons effectivement de la manifestation. C'est pourquoi vous étiez venu quand même au départ. Voilà, on n'a pas oublié, certainement pas. PEA, pour l'égalité animale, on l'a compris, donc il y a un site internet, peut-être rappeler encore le site.
www.asso-pea.ch.
Voilà, alors on l'a compris, c'est un collectif qui essaie de défendre la cause animale, pourrait-on dire. Combien de membres êtes-vous? Êtes-vous à la recherche de soutien, de nouveaux membres? Et quelles sont quelle est l'actualité de PEA, les prochaines choses à venir?
Tout à fait. Alors, maintenant, je crois, d'après les derniers sondages, on est à 700 membres qui nous soutiennent, donc qui payent une cotisation. On est donc aussi, donc dans ces 700 membres, on n'est pas tous actifs au même niveau. Il y a des gens, on peut s'engager comme étant voilà, donateurs. Ça, on a toujours besoin, parce qu'on a des manifestations qui nous demandent beaucoup de ressources. Après, on a des membres qui sont plutôt bénévoles, donc qui viennent nous aider pour tenir des stands, pour organiser, etc. etc. Donc voilà, donc 700 membres sur toute la Suisse romande. Donc comme j'ai dit, oui, au niveau des ressources, on est toujours en recherche de nouvelles personnes qui puissent prendre en charge des projets, qui puissent nous aider, ou bien simplement de dons ou de réseaux, de faire des partenariats, des alliances, des collaborations en fait avec diverses instances. Et du coup, par rapport à l'actualité de PEA, donc là, en novembre, début 1er novembre, fin 30 novembre, on a le mois vegan qui commence. C'est un titre un peu marketing parce que vegan, tout ça, ça marche bien en ce moment. Mais c'est clairement un mois qui se veut, en fait, donner, mettre un pied bah voilà, dans la question animale, la cause animale, parler d'antispécisme et bien sûr de véganisme pour donner les solutions clés en main en fait, aux personnes qui sont sensibles à ce sujet ou qui pensent que c'est n'importe quoi mais qui viennent quand même aux conférences pour débattre. Et donc voilà, donc c'est dans tous nos cantons, on a un programme d'activité absolument magnifique. Et donc ça, c'est vraiment le gros travail là qui est en avant des activités de PEA.
Quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'association, il le fait comment? Sur le site, il y a tout ce qu'il faut?
Oui.
Un formulaire de contact?
Il y a un formulaire de contact, d'inscription. Et il y a, on reçoit, donc suite à ça, on peut demander la réception d'un guide de bienvenue qui explique aussi à quelle adresse. On a des groupes régionaux avec des listes mail. Et donc, il y a tous les contacts sur le site pour demander, bah voilà, moi, je suis plutôt dans cette région géographique, alors j'aimerais contacter ce groupe, etc. etc. Donc, il y a vraiment tous les liens avec qui échanger sur le site.
Okay.
Et les personnes intéressées, j'en profite, peuvent aussi venir nous voir à Lausanne donc samedi prochain, donc le 28, où on tiendra un stand donc à la place
Saint-Laurent, devant l'église.
Donc toute la journée de 10h à 18h, où il y aura notamment des informations sur le spécisme, il y aura des tracts, des brochures, il y aura
des casques de réalité virtuelle.
Des casques de réalité virtuelle, oui. Alors
qu'est-ce donc?
C'est des sortes de lunettes avec un Samsung, enfin c'est une sorte de smartphone dedans qui fait écran en fait et qui permet d'être immergé en 360, peu importe où on tourne la tête, on voit le monde se déplacer, on ne voit pas son corps, hein, on voit vraiment une vidéo. Et donc là, nous, on a des vidéos qui nous mettent au niveau d'un poussin ou d'un cochon et on découvre leur vie. Il y a une voix qui nous explique ce qui se passe en fait.
Excellent, jolie pédagogie.
C'est très bien. Ça donne le tournis, hein, c'est assez impressionnant l'expérience.
Okay. Pour les futurs prochains membres, ouais, je ne suis pas sûr de la phrase.
Les
prochains futurs membres, c'est mieux. Merci.
C'est pas. Je sais
pas. Quoi qu'il en soit, pour les personnes, les néo-arrivants, quelles fonctions sont-elles les plus requises au sein de PEA? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui pourraient venir, mais qui se diraient, ouais, mais c'est quand même des gens, on sent que c'est des activistes, qu'il va y avoir des actions, je vais me mettre, voilà, moi je ne peux pas trop me déplacer parce que si, parce que ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de tout qui est recherché? Comment c'est?
Tout à fait. On a autant besoin de gens qui donnent même une heure de leur temps pour tenir un stand, nous aider à le monter, à le démonter, faire de la distribution de tracts, ou même simplement avoir la patience de discuter avec des gens très récalcitrants lors de manifestations, ou bien bah voilà, simplement tenir des panneaux, ou simplement donner sa présence lors d'une manifestation, dire voilà, bah moi je m'oppose à ce système spéciste, mais également tout dans l'organisation, c'est-à-dire prendre des contacts, réserver des salles, chercher un journaliste, ou faire des communiqués de presse, un photographe, faire le montage de la salle, cuisiner à manger pour l'apéro, selon les événements. Il y a vraiment de toutes les compétences qui sont nécessaires et on n'a jamais assez de bras et on est toujours heureux de rencontrer des nouvelles personnes.
Super. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge ou de je ne sais quelle chose qui permettrait aux personnes de venir ou qui donnerait une excuse aux gens de ne pas faire partie de PEA.
Alors,
cette question va avec la suivante. Y a-t-il des pairs PAIRS que vous avez découvert ailleurs? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bien compris, PEA, c'est pour la Suisse romande. Y a-t-il l'équivalent en France? Je crois que oui, hein, là, ou pas, vous allez me dire. Et à tout le moins, des équivalents peut-être au Tessin ou en Suisse alémanique, que vous connaissiez?
Alors moi, c'est vrai que je vais commencer par la Suisse alémanique parce que c'est plus près. C'est comme ça que j'ai découvert PEA en fait. Quand je me suis intéressée en fait à la question animale, j'ai découvert le réseau Tyrium Focus qui est donc à Berne. Il y a aussi un autre groupe activiste für die Tierrechten, plutôt voilà en Suisse allemande.
Alors Tyrium Focus, c'est ça?
Tyrium
Focus, donc les animaux au centre.
D'accord.
Et puis la deuxième
Aktivisten für Tierrechte, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre.
Les activistes pour les droits des animaux.
Voilà. Okay. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais découvert Tyrium Focus parce qu'ils faisaient la marche pour la fermeture des abattoirs à Berne. Et je me suis dit, oh, mais c'est dommage, il n'y a rien en Suisse romande. Et en fait, c'est juste que je ne connaissais pas le réseau lausannois que j'ai découvert quelques mois plus tard. Et du coup, donc eux, c'est un peu nos pères, même si PEA est très singulier. Parce que la stratégie qu'on a choisi d'emprunter, c'est vraiment le spécisme. C'est vraiment cet axe philosophique politique qu'est le spécisme, cette idéologie de système, alors que la plupart des autres associations, ça reste quand même sur plutôt la protection animale ou l'exploitation. Cette notion de spécisme ne ressort pas comme axe directionnel. Et en France, maintenant, je ne sais pas pour les nouvelles associations qui sont peut-être plus petites que je ne connais pas, mais en tout cas pour les grandes associations, le spécisme est évoqué, le spécisme est mis en avant, mais n'était pas vraiment à la base de l'axe directionnel. Par exemple, L214, même si se déclare maintenant comme une association antispéciste et qui fait un travail excellent, clairement a une communication et certains aspects qui ne font pas paraître l'antispécisme ou qui ne c'est pas le même axe. C'est pas vraiment nos similaires, mais on peut dire qu'on est tous quand même dans la même lutte. Donc voilà.
D'accord, j'ai bien compris. Deux questions qui vont nous permettre de glisser vers justement cette manifestation de samedi. Comment sortir du sérail? Comment informer les gens qui n'ont peut-être aucune idée? Comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as découvert PEA. Moi-même, je ne sais plus à quel moment ça m'est arrivé, mais je crois que ça m'est arrivé parce que au moment de cette que l'on peut appeler comme une transition du végétarisme au véganisme, je m'étais dit, je vais en fait voir s'il y a d'autres gens, si on peut papoter, trouver des recettes marrantes, des trucs comme ça. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'étais tombé sur PEA. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est finalement un truc collatéral. Comment est-ce qu'on sort du sérail? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'entre-soi alors qu'on a vu les médias couvrent autre chose, les lobbies couvrent d'autres choses? Ça va être compliqué. Ça, c'est un des travaux auxquels vous vous attelez à PEA? Et si c'est le cas, comment?
Moi, je vais parler peut-être de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que quand j'ai découvert donc, la réalité de l'exploitation animale et le fait que c'était quelque chose de complètement horrible et immoral auquel je ne voulais plus participer, j'ai commencé vraiment un peu, on va dire, dans mon coin. C'est-à-dire que je regardais des vidéos sur Internet, j'ai regardé des manières vraiment pratiques de refuser l'exploitation animale, c'est-à-dire cuisiner autre chose et comment changer principalement mon alimentation. Et en fait, j'ai découvert le monde associatif en fait, à peu près 6 mois plus tard en allant à un brunch, c'est-à-dire un brunch vegan, qui était organisé à Lausanne, et qui d'ailleurs sont toujours organisés à Lausanne le dernier dimanche de chaque mois. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis dit, mais où étaient tous ces gens? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant? Et puis, c'était vraiment quelque chose qui m'a soulagé parce qu'on se sent moins un peu
isolé,
l'exclu chelou. Donc, je pense que maintenant, c'est de plus en plus présent dans les médias. C'est-à-dire que je pense que si on s'informe, même en contactant directement l'association pour poser des questions, bien ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt, une nécessité de rencontrer des gens et puis de se solidariser avec d'autres antispécistes pour
apparaître également et pour...
Pour pouvoir être plus efficace et se sentir moins un peu isolé dans mon coin, est-ce que vraiment ce que je fais ça change quelque chose en fait.
Tout à fait. C'est vrai que l'idée des brunchs, en tout cas, c'est une bonne idée parce que c'est spectaculaire, je veux dire, dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est extrêmement tangible puisqu'on va justement s'alimenter, toucher des choses, voir des choses. On peut voir qu'elles sont également belles, jolies, que l'on peut être gourmand et vegan, que l'on est gourmand et vegan.
Que tout le monde est en vie.
Que tout le monde est clairement en vie et tout ça. Non, ça c'est très bien. Alors justement, vous verrez. Le glissement va nous mener justement au reste de cette interview. Mais alors, qu'en est-il des relais médias ? Est-ce que là aussi, on s'aperçoit que par un phénomène de mode auquel on assiste, en tout cas pour le moment, eh bien, certains médias s'intéressent un petit peu plus ? Est-ce que vous avez été à PEA sollicité par d'autres, par des médias, ou pourquoi pas même des médias de masse ? Est-ce que ou d'autres gens, des écoles, des personnes qui sont dans des positions de relations et d'information, est-ce que des gens viennent plus vers vous ? Est-ce que vous avez constaté ça ou même pas ?
Alors, donc moi, je ne suis pas chargée directement. Ce n'est pas moi qui reçois directement les contacts, mais donc je peux vous dire déjà ce que j'en sais. Les écoles, pas tellement encore, mais par contre, les médias, c'est vrai que l'antispécisme est à la mode, à la télévision, à la radio. On en entend beaucoup parler, ce qui est une bonne chose, même s'il y a beaucoup de récupération, malheureusement. Et dans les journaux, toujours de la manipulation, etc. Mais on a beaucoup d'intérêt. Bah, rien, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à Aquatis, on a eu énormément, je crois, 5 journalistes, 5 chaînes différentes qui sont venues nous interviewer, radio, télé, articles de journal, etc. Mais dans la... Voilà, en fait, nous, on envoie toujours des communiqués de presse. On a des personnes de contact qu'on renvoie lorsqu'il voilà, y a des questions, donc autant des philosophes que des professeurs en histoire ou des porte-parole de l'association. C'est pas encore grandiloquent, mais ça a beaucoup, beaucoup progressé.
Voilà, on sent que l'évolution, elle est plutôt dans le bon sens, en tout cas pour ce que l'on considère être comme le bon sens. Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait que les médias s'y intéressent, donc tant mieux, c'est fait. Mais après, c'est pourquoi elles s'y intéressent, ce qui est important. Voilà, qu'en est-il du traitement qui est réservé à l'antispécisme, selon vous ? Est-ce qu'on en fait encore quelque chose de bizarre, d'étrange et de suspect ? Ou est-ce que de plus en plus, on dit non, mais en fait, finalement... C'est peut-être, et puis à l'aune du prochain siècle, etc., et bien peut-être que là, il y a quelque chose vraiment de fondamental, d'essentiel.
Alors c'est vrai qu'on est vraiment passé en quelques années d'une moquerie totale, d'une désinformation et d'une relation, enfin des faits relatés complètement erronés et qu'on nous attribuait certaines pensées ou certaines choses qu'on ne disait pas du tout, qui n'étaient pas du tout notre message, à aujourd'hui une considération bien plus sérieuse avec des alliés entre guillemets dans les médias qui ont eux-mêmes pris conscience de ça de manière en jetant un œil vraiment à notre message, qu'est-ce qu'on voulait dire, même si il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui comprennent mal, il y a toujours des gens qui ne s'intéressent pas assez ou qui ont une volonté pour telle ou telle raison de ne pas dire les choses telles qu'elles sont.
Mais c'est vrai que là le rapport de force commence à se rééquilibrer, pourrait-on dire. On peut aller jusque là ou bien on est encore vraiment loin du compte?
Ça, je ne sais pas.
Okay. Très bien. Alors, on y vient. La manifestation, samedi passé. Alors, évidemment, ça, c'est l'occasion pour PEA de se présenter au grand jour, de dénoncer quelque chose, effectivement, dont on a parlé jusqu'à présent, et de dire aux gens de sensibiliser les personnes. Alors, racontez-nous, comment ça s'est organisé ? Combien étiez-vous du côté de PEA ? Combien avait-il de personnes en face de vous ? Etc. Après, je vais venir avec mes questions, bien sûr. Qui commence, Alizée ?
Oui, alors parce que c'est un peu moi en fait qui ai lancé cette manifestation. On était en ce moment un peu en baisse de cadence et je pense que si j'avais pas dit ouais allez on fait quelque chose, on m'a dit que peut-être qu'il se serait rien passé. Puis moi je trouvais que c'était quand même un symbole important parce qu'il y avait beaucoup d'argent derrière ce projet et beaucoup d'animaux. Du coup ça s'est passé que on a organisé ça le jour de l'inauguration, donc qui était samedi hier.
Et donc on le rappelle, Aquatis, cet énorme aquarium, plus grand aquarium d'eau douce d'Europe,
exactement.
Ça, c'est leur pub. Hein.
Oui, exactement. Du coup, donc on était là de 10h à midi devant l'espace qui nous avait été attribué par les autorités, juste à la sortie du métro, devant Aquatis, avec des panneaux. On était sous forme de deuil, alors pas un deuil non plus religieux ou un deuil extrêmement dans la tristesse, mais plutôt juste, c'était pas une manifestation comme on en fait d'habitude avec des slogans criés qui soient très sérieux ou parodiques. Là, c'était vraiment dans le silence, à part les discours qui étaient prononcés. Et donc on était une soixantaine sur les 2 heures. Alors voilà, entre les gens qui sont partis, que d'autres sont arrivés, on était une soixantaine, ce qui était un chiffre assez intéressant, parce qu'en tout cas une évolution assez intéressante pour un événement comme ça, parce que c'est pas un grand événement annuel où on arrive à regrouper 1000 personnes. En plus, ce jour-là, il y avait une marche contre la fourrure à Zurich qui a rassemblé 300 personnes, dont certainement des activistes qui auraient pu nous rejoindre. Bon, de toute façon, l'emplacement était trop petit pour accueillir 1000 personnes, donc finalement, c'était bien qu'on soit 60. Alors par contre, notre but n'était pas du tout... Enfin, bien sûr, on aime bien qu'il y ait un public, des gens qui vont à l'aquarium, qui voient nos panneaux, qui nous lisent, qui prennent les tracts, puisqu'une distribution de tracts sur le spécisme était organisée. Mais alors, à ce créneau-là horaire, on n'avait pas beaucoup de gens. Par contre, on a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de médias. Et finalement, c'est ça qui est le plus important, parce que dès qu'on passe dans les journaux, à la télé, à la radio, on touche tout de suite... 200 000, enfin pour certains journaux comme le 20 minutes, c'est tout de suite 200 000 lecteurs. Tous vont pas lire, etc., etc. Alors que lorsqu'on, voilà, sur la journée, alors Aquatis a annoncé dans la journée hier 720 personnes quand on est à midi justement, et puis à la fin de la journée 2000 ça
2450 visiteurs, je crois.
Lors de l'inauguration, donc on les a pas tous touchés, mais donc notre on a eu la médiatisation qu'on voulait, donc c'était ça qui était important, je crois. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le...
Oui, alors, bah, comme l'a dit Alizé, ce qui est important vraiment pour nous, c'est de solliciter les médias et puis d'en faire vraiment une question qui soit diffusée au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une personne qui va venir à Aquatis avec toute sa famille en voyant un panneau en disant « Aquatriste, prison pour animaux », ne va pas dire « En fait, c'est une mauvaise idée, faisons demi-tour ». Je pense qu'il y a une sorte de blocage, oui. C'est-à-dire on s'est décidé d'y aller, on y va et puis...
Les dispositifs, ouais. Tac, tac, tac.
Donc en fait, l'intérêt c'était vraiment les médias et comme l'a dit Alizé, il y a eu beaucoup de retombées, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de journaux qui ont pris du temps et de l'espace dans leur truc pour écrire des articles sur cette manifestation. On notera notamment dans Le Matin dimanche, donc vraiment une pleine page sur la manifestation, donc clairement avec des photos. Notamment il y a eu le 24h, il y a eu la RTS, il y a eu encore beaucoup d'autres.
Il y a une chaîne française qui était là par hasard, qui était très heureuse de nous voir, qui s'est dit « Oh, un peu de piment dans notre documentaire !»
Donc le bilan est plutôt positif, enfin vous êtes quand même content, enfin vous n'êtes pas
quand
même,
vous êtes content. On est content parce qu'en fait aussi, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'on s'inscrit dans un tout, c'est-à-dire que... Il n'y a pas que cette manifestation. On ne se dit pas « Ah, avec cette manifestation, on va faire changer les choses. » On sait très bien que c'est c'est comme la publicité, malheureusement. C'est une répétition. C'est de voir... Alors là, il y a eu une manifestation à la place Saint-Laurent. Là, il y a eu un stand. Là, il y a eu une manif à Aquatis. Là, il y a eu ça dans les médias, ça dans les journaux, ça à la radio, ça à la télé. Ma sœur me parle de ça. J'ai vu ça dans un article de magazine. Et c'est vraiment cette répétition de ces mots qui reviennent qui font que les gens, évidemment, sont obligés de se questionner et de prendre position. Du coup, voilà.
Ouais. Bon, ben ça, c'est très bien de le mentionner. Moi, j'aurais quand même envie qu'on revienne aux personnes qui vous ont croisé, parce qu'effectivement, on sait comment c'est. C'est une sortie du week-end. Les gens sont dans leur dispositif. Ils vont y aller quoi qu'il en soit et tout et tout. Mais certainement que des gens ont dû réagir en vous voyant. Comment est-ce que vous avez eu? Quelle réaction avez-vous eu? Et pensez-vous que ces personnes-là qui ont réagi, même si elles ont peut-être certainement... certaines d'entre elles mal réagi. Est-ce que quelque chose est né dans leur tête, un questionnement qui surgira plus loin?
Alors, moi, en tout cas, alors pour les gens de... Si je peux me permettre, Charles, je te laisserai compléter. Pour les gens qui faisaient la manifestation ou même moi qui faisais les discours ou les... Enfin, pour nous, ça a été... On n'a pas eu de confrontation comme ça a pu arriver avec d'autres manifestations. Par contre, c'est vrai qu'on a entendu des gens qui ont crié. Ça a été bien relaté par Le Matin. Vas-y, Charles, sans la citation.
Bande de tête à claque, c'est nul. Et
Me touche pas.
Quelque chose d'autre, c'est quelqu'un... un tract lui a été tendu et donc ça a été cité dans Le Matin, c'est « Touche-moi pas ou je te fous une claque ».
De la part de parents. Hein.
De la part d'un père de famille donc, qui, je pense, avait l'impression qu'on allait gâcher sa sortie familiale si ses enfants posaient trop de questions. Parce que, j'en profite juste pour dire ça, on voyait beaucoup d'enfants qui disaient « Papa, ils font quoi? C'est quoi ?» Et les parents qui étaient un peu...
Tu fermes les yeux.
Ferme les yeux, on y va. Donc,
C'est fou ce décalage. Hein. Ouais, on aveugle un enfant devant quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, du mieux vivre, enfin de belles choses finalement. Mm-hmm. Et puis on plonge comme ça, comme si on était tellement complètement aliéné vers un truc dont si on était sincère avec soi-même, on sait, tout au fond de nous-mêmes, on sait que c'est un aquarium, que c'est pas bien quoi finalement, c'est fou. D'accord, donc vous avez eu ce type de réaction également.
Voilà, c'est surtout les gens qui donnaient des tracts qui étaient plus proches finalement des réactions peut-être négatives. De la part d'Aquatis en fait, des employés ou des gérants, il n'y a pas eu de soucis. ça, ça. Ils nous surveillaient de temps en temps.
Professionnels.
Ouais, ouais. Ils n'étaient pas. Ils sont même pas venus. Il n'y a pas eu de problème là-dessus.
Pas eu de débordement, pas eu besoin de la police ou quoi. Donc ça, c'est quand même bien passé de ce point de vue-là aussi. Non, non, mais c'est bien de le dire quand même. Est-ce qu'on sent que les gens, en vous voyant, se questionnent?
Ah oui, voilà, c'était la deuxième partie de votre question. Alors, de toute façon, lorsqu'on émet une opinion à contresens, lorsqu'on casse l'unanimité de quelque chose qu'on croit légitime, lorsqu'on dit un avis inverse, il y a forcément quelque chose qui se passe dans la tête des gens. Il y a plusieurs étapes, donc c'est pour ça que j'ai expliqué que c'est important de marteler, parce qu'il y a toujours l'étape de je ferme les yeux, je me moque, je me mets en colère, ils font n'importe quoi, etc. etc. Mais c'est déjà une amorce de changement, en fait, qui, comme je dis, à force de répétition, à force de réflexion. Alors, il y a des gens qui n'avanceront peut-être pas dans leur réflexion, mais ça change quelque chose dans la tête des gens. À quel niveau, à quel degré, c'est subjectif et propre à chaque personne, mais il se passe de toute façon quelque chose.
Ça, c'est bien. D'accord.
Les réactions négatives sont souhaitées. La répression, la protestation de l'autre côté est nécessaire à un changement, enfin, fait partie de ce processus.
Tout à fait.
Oui, je pense que dans chaque évolution sociale ou vraiment question progressiste de société, on a toujours besoin que la majorité des gens prennent position, que ce soit d'un côté ou de l'autre, plutôt que rester un peu dans l'indifférence et le statu quo, c'est-à-dire je fais comme avant sans devoir me positionner. Et là, j'ai l'impression que ces dernières années, on voit beaucoup plus de clivages, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent vraiment totalement et ceux qui s'opposent totalement. Et j'ai l'impression qu'une fois que la majorité des gens aura un peu choisi son camp, entre guillemets, il pourra vraiment y avoir une vraie question avec, à terme, je sais pas, un changement législatif ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est très bien. Et, enfin, nous, on préfère vraiment beaucoup l'opposition à la passivité, en fait. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Donc c'est bien. Ensuite, là, il y avait vraiment très peu de protestations. Ouais. Parce qu'il y avait aussi pas forcément beaucoup de personnes.
Oui, puis c'est aussi de votre fait, parce que si j'ai bien compris, vous utilisez quand même l'humour, enfin, on questionne les gens d'une manière pédagogique, on sent qu'il y a de la bienveillance, il y a aussi ces choses-là, donc c'est aussi vous qui finalement installez une attitude et une atmosphère. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, quelles sont selon vous justement les meilleures méthodes? La provoque, des fois c'est bien. Puis ça fait du bien aussi. L'humour, est-ce qu'il est souvent présent? Alors ça peut être de l'humour noir, hein, parce qu'effectivement un deuil, c'est quand même un deuil. Voilà, des paraboles, des analogies. Comment est-ce que vous, en général, lorsque vous manifestez, est-ce qu'il y a un angle PEA, une patte PEA?
Alors,
j'utilise patte, évidemment.
Alors pas vraiment, à part qu'on est des grands blagueurs dans l'association, on se marre tout le temps. Du coup, c'est vrai que même quand on fait quelque chose de sérieux, autant dans nos discours que dans nos panneaux, alors on fait pas de l'humour, mais c'est vrai qu'on fait des jeux de pensée ou des choses comme ça qui sont un peu interpellants. Par contre, c'est vrai que PEA a fait notamment, c'est un peu démarqué par deux manifestations à Suisse Expo cette année en janvier et au comptoir suisse en septembre, qui étaient des manifestations parodiques. Donc là, avec beaucoup d'humour, où on disait tout l'inverse, mais de manière tellement exacerbée, de manière tellement exagérée que... C'était très drôle.
C'est bien la parodie, c'est voilà. Une bonne idée.
Mais du coup, je ne sais pas s'il y a un axe qui est mieux que les autres. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut attaquer par plusieurs angles, par plusieurs axes, qu'il faut toujours bien réfléchir ses actions, mais qu'il ne faut pas non plus se concentrer sur des choses qu'on pense bien, donc par exemple se muer dans un pacifisme total, alors qu'on se rend bien compte que certaines fois, ça ne suffit pas. Par contre, bon, PEA est une association totalement légaliste, donc on ne fait rien d'illégal. Des fois, limite, peut-être un peu désobéissance, mais ça reste, c'est très très légal. Et après, sur la communication, autant des choses sérieuses qu'un peu d'humour, qu'un peu de toucher émotionnellement les gens, d'essayer de réveiller la compassion en fait, qui manque dans cette société, et à la fois des arguments très rationnels. Donc, je ne sais pas si Charles va rajouter quelque chose, mais je crois que c'est le...
Ouais. Non, je pense que c'est bien.
C'était assez exhaustif. Ouais. Encore une petite question, justement concernant les attitudes des uns et des autres. Est-ce que vous constatez que les positions se raidissent? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, effectivement, des arguments commencent à surgir, et puis à un moment donné, eh bien, les gens adoptent une posture extrêmement, segmentée, et puis assez dure. Mais ça peut être des deux côtés, hein, où tout d'un coup, on entend des gens dire « Oui, mais voilà, alors ce sont des extrémistes, quoi qu'il en soit. » Et à partir de là, on n'accepte plus une parole. On interdit vraiment d'avoir cet échange-là. Et dans l'autre côté, à un moment donné, nous, on peut se dire aussi, oui, mais à force, ces gens-là, enfin, ils deviennent fous. Ce sont des dévoreurs de cadavres. Stop. Parce qu'on entend des fois ce type de discours-là. Est-ce que ça, c'est, selon vous, quelque chose qui est présent, prégnant et qui pose un problème? Qu'en dites-vous?
Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face. En tout cas, j'ai l'impression que là, on parle vraiment plutôt de discussion, que ce soit lors de stands ou ce genre de choses. Après, je pense que des gens ont vraiment de la mauvaise foi, en fait. J'ai l'impression qu'il y a souvent des excuses récurrentes qui viennent et les personnes n'y croient pas vraiment, mais c'est juste histoire d'essayer un peu de se convaincre soi-même. Je pense qu'un truc important, c'est de ne pas oublier que, en fait... Enfin, en tout cas, nous, personne n'est né antispéciste, personne n'est né...
Personne n'est né, hein. Pas personne n'est antispéciste. Personne n'est né antispéciste.
Personne n'est né antispéciste. Je pense peut-être tout le monde n'est...
ça, ce serait quand même.
Je pense
sujet,
que...
On tient un sujet.
Le fait que dans notre vie, on est tous participés à l'exploitation animale, ça nous force à nous mettre aussi à la place de la personne qu'on a en face. C'est-à-dire que je pense que... Un certain nombre d'années en arrière, si on venait me dire « Ah, mais assassin, tu manges des cadavres », j'aurais été là « Mais
de
quoi tu parles ?» Ou alors « C'est trop bon » ou genre « J'aime trop ça, laisse-moi tranquille, espèce d'extrémiste ». Donc je pense qu'il y a vraiment cette espèce de réaction un peu normale d'opposition parce qu'on attaque un peu en fait, notre identité, c'est-à-dire le fait qu'on ait toujours mangé des animaux et qu'on aime ça, ce genre de choses. Mais que là, maintenant, avec la multiplication d'articles dans les journaux et d'informations à ce sujet, je pense qu'il y a aussi une sorte de négociation pour continuer le plus longtemps possible avant de devoir vraiment se remettre en question.
D'accord, d'accord, donc c'est bien de se dire qu'effectivement ce raidissement qu'on a pu connaître et auquel on a pu assister, finalement on peut le dépasser et puis on peut en revenir à une discussion qui soit argumentée jusqu'au moment où effectivement la rationalité va nous mener à être tous antispécistes. Pardon ? Bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. On va finir, il nous reste 5 minutes. Alors, les directs, c'est comme ça.
C'est génial.
Mais c'est bien. Alors, la dernière question, c'était ça. Maintenant, PEA, la suite, l'agenda, on va rappeler évidemment encore le site internet. Et alors voilà, quels sont les défis à venir de PEA pour vous dans ces prochaines... semaines, mois et années. Donc on l'a compris, l'association est encore est assez jeune, elle existe depuis combien de temps ?
Trois ans.
Voilà, donc elle est encore au début. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment des gens qui vous rejoignent de plus en plus. Pourquoi pas qu'il y ait des personnes qui créent des équivalences ailleurs en Suisse, ce serait assez intéressant. Mais vous, voilà, vous êtes à la recherche de membres, effectivement, de sous. Les prochaines campagnes qui vont arriver, vous avez déjà des lignes conductrices auxquelles vous avez pensé ?
Il y a des événements qui sont récurrents, comme j'expliquais le mois vegan, la journée mondiale pour la fin du spécisme, la journée mondiale pour la fin de la pêche, la journée mondiale pour la fin du foie gras. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup les journées mondiales dans notre association, du coup on fait beaucoup de journées mondiales. Mais sinon, comme je disais, on est un peu limité parce que finalement, le leadership, enfin j'aime pas trop ce mot, mais quelqu'un qui guide ses actions, c'est toujours les mêmes personnes, ça repose sur les mêmes épaules. Et ça devient tout de suite très essoufflant pour l'association. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de déléguer, etc. Je ne connais pas tous les projets du comité. Je sais que toutes les régions régionales ont plein d'idées de manifestations, d'actions, etc. Mais que pour les mettre en place, ça prend encore du temps et demande des ressources simplement en militant, en bénévole pour les mettre en place. Et pas que ça soit, comme je dis, toujours les mêmes personnes. Parce qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont du travail, il y a des gens qui doivent faire leurs études. Donc ça devient très prenant.
Donc voilà, ce sera les mots de la fin, à moins que Charles, tu souhaites conclure, mais c'est ça, c'est qu'on lance un appel, il faut que les personnes vous rejoignent, et comment elles peuvent le faire ? Eh bien, c'est en allant sur le site et en vous contactant. Alors du coup, Charles.
Donc, je dis le site, www.asso-pea.ch.
Très bien.
Ou sur Facebook, Instagram, Twitter.
Voilà, via la page
Facebook. Les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, ouais, très bien.
Mais donc, pas seulement nous rejoindre, mais simplement s'intéresser à l'antispécisme, parce qu'on peut faire aussi des actions individuelles, enfin... C'est bien de nous rejoindre, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se créer.
Absolument. Et puis, effectivement, il y a tout simplement son existence, son attitude dans l'intimité de soi. Le fait de choisir des textiles qui ne soient pas d'origine animale, par exemple, etc. Évidemment, on en a parlé, le régime alimentaire compte pour beaucoup, et toutes ces choses-là. Je vous remercie beaucoup, Alizé, Charles. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, bien, on se tiendra au courant. Et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà. Petite pause musicale. Et puis, juste derrière, nous revenons pour la suite des opérations, toujours en direct jusqu'à 18h depuis La Tortue, à l'occasion du 5e anniversaire du journal Moins. C'est parti.